Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Une émission par Nadia Lichtig.
Bonjour Léonore Chastagnier.
On se trouve aujourd'hui à l'auditorium Maurice Ravel à l'espace Chiasma. On s'est rencontrés déjà il y a quelques temps à l'espace Saint-Ravi, à Montpellier. Mm-hmm. Alors qu'aujourd'hui, on se trouve à Castelnau-de-Lèze. Mm-hmm. Et dans un instant, on va découvrir ta deuxième exposition personnelle,
nommée « Et gentil » aussi,
qui a donc lieu que quelques semaines après ta première.
Oui, c'était un peu le hasard. Et ça s'est un petit peu précipité. Mais finalement, pourquoi pas.
C'était pas trop difficile de concevoir deux expositions à la suite ?
En fait, j'aurais bien aimé avoir eu... Parce qu'en fait, c'est aussi que le travail avance en l'exposant. Ça change beaucoup de choses. Pour soi-même, déjà, on voit les œuvres, les pièces dans un espace. Donc déjà, pour soi-même, ça fait avancer. Et il y a le fait que c'est visible par d'autres qui réagissent. Et ces réactions-là, ça fait aussi bouger. Donc c'est vrai que c'est un petit peu bizarre d'enchaîner, parce qu'on n'a pas forcément le temps de digérer tout ce que ça provoque de changement. Mais les deux lieux étaient suffisamment différents dans leur architecture pour que de toute façon ça se recoupe pas vraiment et ce soit deux propositions distinctes. Celle de Saint-Ravi, l'espace était très grand. Je m'en suis servie surtout pour montrer à Montpellier, dans un espace qui était central par rapport à la ville elle-même, tout un ensemble de choses que j'avais faites au cours des dernières années. Et c'était un peu une façon d'arriver à Montpellier, pour moi. Voilà, c'était plus poser les choses, simplement les montrer. Alors que l'espace qu'on va voir maintenant, son architecture est différente. C'est pas une salle d'exposition classique, puisqu'ici on est dans un théâtre. Et que l'espace d'exposition dans lequel on va entrer est une espèce de coursive, comme une sorte de couloir ou de coursive au-dessus d'une salle, qui peut être une salle de représentation ou autre. Donc, ce n'était pas du tout les mêmes problématiques. Je fais plutôt du volume et de la sculpture. Forcément, dans une coursive, il fallait faire différemment. Voilà.
On te suit.
Grammaire fantôme.
Ah oui, c'est bon, je vois la lumière sous les portes.
Ah, c'est beau. Alors on entre dans un espace qui donc tout en douceur. Enfin, ça fait comme ça une courbe. C'est blanc. C'est plutôt bas de plafond. Mais on peut voir d'un coup d'œil toute l'exposition. Donc on voit que l'exposition est rythmée par des petits formats intercalés par des textes. Et peut-être on peut faire le tour. Et peut-être tu peux nous lire le texte.
Ouais, avec plaisir. Donc effectivement, ce qui s'est passé, tu as dit tout à l'heure que c'était ponctué par des petits formats. C'était ça que je voulais dire quand je disais que forcément l'architecture, avec cette coursive et peu d'espace au sol, m'a conduite à passer par le mur, ce qui n'était pas du tout dans ma pratique initiale. Et j'ai exposé des céramiques aussi, mais de façon à pouvoir les présenter au mur, j'ai choisi celles qui étaient les plus petites. Donc c'est vraiment différent. Et j'ai conçu l'accrochage avec cette espèce de linéarité et avec plusieurs fragments, plusieurs éléments. Les céramiques, ces petites céramiques qui sont comme la colonne vertébrale de l'accrochage, qui sont présentées sous des vitrines avec quelque chose que je voulais proche d'une muséographie un peu ethnographique presque, très classique. Et autour de cette, enfin, le long plutôt de cette colonne vertébrale des céramiques, il y a des mises en abîme photographiques du travail de céramique, parce que je voulais qu'ils puissent avoir, qu'on puisse les voir comme moi je les vois. Donc là, on en a une sous les yeux. Le fait de passer par la photo permet d'apporter cette espèce de doute sur la matière qui déjà m'intéresse avec le volume.
Pour donner une idée aussi des petits formats, on est dans un rapport plutôt de...
Ça, c'est du 18-24.
Et puis la deuxième pièce, c'est un cube en plexiglas dans lequel on découvre une sculpture assez proche de celle qu'on a déjà pu voir à Saint-Ravi, mais cette fois-ci en miniature. Alors, elle vient avant ou après ?
Elle vient après. J'en avais fait des petites avant, que je concevais comme des étapes, des études pour une plus grosse pièce, qui était effectivement celle de Saint-Ravi. Et en fait, je me suis rendu compte, je me suis demandé, mais en fait, en quoi le sens de l'œuvre ne serait accessible que si la pièce, que si la sculpture est grande? Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Par exemple, quand on lit un livre, les mots n'ont pas besoin d'être écrits en énorme pour avoir du sens. Le sens n'est pas du tout induit par la dimension ou la proportion. Une chose petite est tout à fait capable d'avoir autant de sens qu'une chose grande. Et ça m'a soulagée, parce que je me suis rendu compte que j'avais, moi, beaucoup plus de plaisir à travailler le détail et le petit format, et qu'il y avait aussi une jubilation à pouvoir convoquer du sens sans que ça passe par un encombrement matériel, etc. Et le fait d'avoir pu faire cette expo-là, dans cet espace qui m'a contrainte à être sur le mur et à être dans cette linéarité, m'a soulagée pour ça, parce que tout à coup, je pouvais entrer dans un rapport plus linéaire et presque aussi plus narratif, et sortir de l'abord visuel ou physique de la sculpture. Bonjour.
C'est la porte ouverte normalement.
Ah oui, bien sûr.
Les gens n'est pas... Sauf qu'on m'a piqué ma cale.
Oui, je trouvais pas la cale non plus.
Je l'ai trouvée, je vais la voir.
Ok.
Et donc là, on est devant des sculptures. C'est quelle taille à peu près ?
14 cm.
Et on voit donc une personne assise, sans tête, habillée avec un pantalon, un t-shirt, les mains...
croisées sur les genoux.
Assez détendue, la personne.
C'est ça. Ouais.
Enfin, elle ne regarde pas, elle n'a pas de tête, mais elle nous regarde quand même.
J'aime bien que tu formules comme ça, elle ne nous regarde pas. C'est vrai que je pense que ça a à voir. En t'en parlant, je me rends compte qu'il y a peut-être quelque chose à voir avec ça. Je t'ai dit tout à l'heure, quand je suis dans l'atelier, dès qu'il y a quelqu'un d'autre, je n'arrive plus à me concentrer de la même façon. Ça n'a pas à voir avec est-ce que la personne fait du bruit, de la poussière ou quoi. C'est simplement, est-ce que quelqu'un d'autre est là? Est-ce qu'il y a un autre regard? Et effectivement, là, cette sculpture-là n'a pas de visage. J'ai coupé le corps au niveau du cou. Et je pense que c'est notamment parce que je trouve qu'il y a un soulagement à pouvoir, nous, visiteurs, regarder cette statuette pleinement, sans se sentir pris par son regard à elle posé sur nous. Je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu plus facile.
Donc après cette céramique à la tête coupée, on est devant des photos.
Oui, ça c'est des photos que je prenais de mes céramiques au fur et à mesure pour les archiver dans un bon studio photo à l'époque où j'étais encore au Beaux-Arts, on avait un super équipement. Et je les mettais sur un cyclo et je les prenais en photo de façon extrêmement aussi neutre que possible. Et passer par ce regard photographique m'a énormément plu. J'ai été... doubler ce regard comme ça m'a énormément plu et du coup je pouvais aussi axer sur les endroits qui me plaisaient le plus dans telle sculpture. Et effectivement ce truc du pli, du repli, là je peux le faire passer devant.
Complètement. Ouais. Et à côté, il y a un dessin. Alors peut-être tu peux nous dire quelques mots sur cette cabane ou cette architecture.
Donc comme je disais tout à l'heure, j'ai construit l'expo sur cette espèce de fil, linéarité, avec plusieurs éléments comme ça qui sont juxtaposés les uns à la suite des autres et qui correspondent à plusieurs états dans lesquels je peux être. Une céramique va peut-être correspondre plus à un moment de longue concentration, de disponibilité, de calme. Les dessins, c'est un besoin de schématisation, de quelque chose qui est plus trouble à l'intérieur de moi et me permettre de schématiser quelque chose en deux, trois traits. Les thèmes sont quand même souvent assez proches de ceux qui sont dans les céramiques, mais abordés différemment. Là, c'est une sorte de... Moi, je vois ça comme une chambre, en tout cas de pièce, puisqu'il y a une porte, mais c'est suggéré, c'est vraiment très simple, c'est juste un cube. Donc assez minimaliste, et à l'intérieur de ce cube, on voit deux sortes de petits traits que moi je vois ou j'imagine comme deux évocations de personnages. Et on a construit les choses de cette façon parce qu'il y avait ces deux petits traits qui se frôlent, qui dans mon imaginaire à moi évoquent contact de deux personnes, à une espèce de proximité visuelle. Avec le frôlement des plis sur la photographie qui précède, et aussi une proximité visuelle avec la boîte en plexiglas dans laquelle il y a quelque chose qui est très proche de la boîte de la chambre du dessin. Donc c'était pour que dès le début de l'exposition, le lien entre tous ces éléments un peu hétérogènes puisse quand même se faire.
Alors que la boîte est quand même fermée. Là, il y a une porte.
Elle est transparente.
Ouais, c'est vrai. Alors, on arrive au premier texte que je laisse te lire.
Si tu veux. Alors, je pense qu'il y en a un que je te lirai encore plus volontiers, qui est peut-être celui-là. Je pense que c'est le plus représentatif.
Ok.
Donc, c'est un texte qui est un petit peu long, hein, mais je le lis en entier, et puis après, t'en feras ce que tu voudras. Donc... Tout le long du trajet du retour, hier, je souriais. Je riais parfois carrément. Je souriais et j'avançais dans les rues rectilignes avec cette joie. Avec mes mains, je faisais des signes. Il y avait du monde autour, tout un tas de passants. C'était la nuit, mais pas très tard. Les rues étaient actives et c'était en plein centre. Il y avait les voitures, les gens, les bruits. Et j'essayais d'attraper le tout avec mes mains. Je tendais les bras à demi et j'attrapais l'air entre mes doigts. Il y avait un air chaud et moite parce qu'il avait plu et que le sol était encore humide. J'attrapais l'air, les sons, avec des gestes des mains, des poignets, tout le bras aussi, mais à demi, c'était à peine visible. Je frottais le pouce contre l'index et le majeur, pour palper l'air ambiant. Ou bien je courbais la paume, je rassemblais mes doigts et les ramenais doucement sur eux-mêmes en les pliant, pour prendre à l'intérieur ce truc immatériel. Je marchais ni vite ni lentement, mais dans un rythme continu et souple, tout droit, sans m'arrêter ni faire de détour. La même rue jusqu'au bout, c'était la 12e. Je faisais courir l'air entre mes doigts et je le mettais dans mon corps. Je l'ingurgitais, je le faisais passer du dehors au dedans par petits bouts. J'attrapais une poignée de son et d'humidité avec la main droite. Je la faisais passer à l'intérieur en la ramenant contre ma poitrine. Je faisais pareil avec la gauche. Je plaçais la paume sur ma joue, la nuque. Une autre partie du corps,
pour que chacune ait sa dose. J'ai parcouru le bas de la ville de part et d'autre avec cette activité discrète qui m'occupait entièrement.
Merci beaucoup, Léonore.
Donc là, on arrive à deux photos qui sont très énigmatiques.
On ne sait plus de quoi il s'agit comme forme.
Bah, c'est ça qui me plaît. J'aime bien que justement tu ne reconnaisses pas forcément, ça me plaît. Un cadrage, ça change beaucoup de choses. La question du cadrage, je l'ai déjà dans mes céramiques, puisqu'il y a souvent une coupe, et que je concentre l'attention uniquement sur la zone qui m'intéresse. Tout à l'heure, il y avait une main en céramique, la sculpture elle-même, il y a une coupe assez nette. La petite figurine sans la tête, c'est aussi que je concentre l'attention ailleurs. Donc la tête, à ce moment-là, ne m'intéresse pas, donc je ne vais pas la représenter alors qu'elle n'est pas dans mon cadrage mental. Donc le fait de recadrer par-dessus change la lecture des pièces. Et donc là, effectivement, on est devant deux photos de céramique, et à chaque fois, c'est des gros plans sur juste un détail de la céramique. Et ça change un petit peu la façon dont on la voit. Ici, à droite, c'est une photo d'une sculpture qu'on va retrouver un tout petit peu plus loin. Et alors que quand on voit la sculpture, on comprend très bien de quoi il s'agit. Alors si j'avais coupé le cadrage ici, tu verrais un petit zip. À la base, c'est une céramique qui représente un petit morceau d'une trousse en cuir. Et là, j'ai coupé un petit peu plus haut le cadrage photo, de façon à ce qu'on ne voit pas la tâche, le zip de la trousse. Et on a uniquement les deux battants, les deux morceaux fluides qui s'écartent comme ça. Et ouais. Là, ce qui m'intéresse en général dans les formes, et tout court, c'est la question de ouvert, fermé, dedans, dehors, le repli ou l'exposition, etc. Et là, ça me permettait de cadrer uniquement sur ce truc de frôlement et d'ouverture et d'écartement possible avec aussi, oui, le truc de la fleur, le truc aussi, je pense, plus sexuel aussi, peut-être, sans que ce soit génital à proprement parler, mais disons que la question de entre-ouvert ou ouvert, historiquement, a quand même quelque chose à voir qui s'inscrit dans le féminin ou ce qu'on a mis du côté du féminin depuis des années. Ce qui a aussi à voir, c'est un peu le truc qui parcourt de toute façon beaucoup de ce qui m'intéresse, mais dans la petite figurine qu'on avait au début, dans cette posture de détente, on pourrait aussi la lire comme une posture d'attente, qui là encore est un peu un trope qu'on a mis du côté du féminin. Donc ce qui m'intéresse, c'est vachement ça, c'est comment une même chose peut être vue comme une passivité, attente, ou comme une activité, détente. C'est-à-dire que détente, c'est pas passif, c'est quelque chose de plein, quelque chose qui nourrit, quoi.
Et puis aussi une place qu'on prend.
Exactement, donc c'est cette ambiguïté-là qui m'intéresse.
Oui, donc il y a un rapport à l'attente.
Beaucoup, oui.
Dans cette figurine, peut-être tu peux nous en parler un peu plus, même là encore, parce que là on la retrouve, et on voit donc, avec la photo, complètement une autre matérialité aussi.
Ouais. C'est la matière de la terre dans laquelle il y avait un peu de chamotte, tu sais, la céramique peut être chamottée. Et à la cuisson, ces petits tessons de matière ressortent, et c'est ça qu'on voit. Et c'est ça qui me plaît avec la céramique, c'est quand même que c'est pour ça que je ne mets pas d'émail dessus. C'est parce que ça me plaît, cette matière. Et donc oui, c'est un gris neutre. Malgré tout, j'ai pas du tout le même plaisir. Par exemple, j'ai utilisé à certains moments pour voir un peu comment ça me parlait. Tu sais, comment ça, Sculpé ou un truc comme ça, c'est une espèce de matière... plutôt
lisse, non ?
Plutôt genre une sorte de plastique. Tu peux l'utiliser pour faire des figurines. C'est beaucoup plus facile à manipuler, beaucoup plus facile à mouler. Enfin, il y a quelque chose de beaucoup plus simple dans son abord. Mais finalement, c'était un gris qui n'était pas du tout évocateur de quoi que ce soit. C'était un gris triste, alors que le gris de l'argile, là, il est plein de quelque chose qui me plaît. On sent qu'il y a une matière. Qui a un intérieur, en fait. On sent qu'il y a ces petits tessons qui ressortent, donc qu'il y a quelque chose de plus dense.
Là, on continue donc, et on arrive à une nouvelle forme.
Ce sont des bas-reliefs. C'est pas la même matière de laquelle est faite la sculpture.
Très juste, oui. En fait, c'est effectivement une argile, mais une argile particulière parce que c'est une argile auto-durcissante. J'étais aux États-Unis quand je l'ai faite et j'avais pas beaucoup de temps. J'avais pas le temps d'attendre que ça sèche, de le faire cuire et tout ça. Donc j'avais acheté une terre auto-durcissante qui me plaisait pas du tout sur le coup. Et en fait, elle est très friable. Elle a quelque chose qui ressemble presque à du plâtre. Et maintenant que je les ai, je les adore. Et je les trouve vraiment... C'est une texture différente. On sent qu'elle est plus fragile qu'une terre qui aurait vraiment... qui serait passée au four. Et donc, effectivement, à ce moment-là, j'étais pas chez moi, j'étais pas à mon atelier, donc j'avais pas le temps de me lancer dans une sculpture en volume. Et finalement, de passer par le bas-relief... m'a plu parce que ça fait comme des genres de petites photographies, donc je retrouvais mon espèce d'intérêt qui est toujours un peu présent pour le cadrage, la coupe, et je pouvais regarder le même objet plusieurs fois en le mettant dans un sens, dans un autre, et avec aussi le rappel, chose qui m'est très très chère, qui est tous ces bas-reliefs de l'Antiquité qui sont quand même... Et puis aussi, justement, dans ces reliefs, il y avait tout le travail du drapé qui me plaît. Et bon, bah, aujourd'hui, c'est quoi faire un bas-relief avec du drapé? Est-ce que un t-shirt Uniqlo, c'est le drapé d'un chiton? C'est passé où, en fait, cette iconographie-là?
C'est vraiment étonnant, là encore. Alors oui, on est donc de nouveau devant des photos maintenant qui recadrent les sculptures. Et là, il s'agit à gauche d'une photo d'une sculpture à la terre blanche, où l'étiquette est légèrement relevée. Et c'est assez bluffant à quel point ça joue avec le réalisme. Après, quand on s'approche, on voit évidemment... La terre.
C'était des sculptures que j'avais déjà. Celle-là, j'avais pas voulu la présenter à Saint-Ravi, ni celle qu'on avait plus tôt, parce que justement, je voulais pas présenter deux fois la même chose, et j'en avais gardé quelques-unes pour maintenant. Je l'ai faite l'année dernière, dans un moment où j'étais amenée de toute façon à penser à plus petite échelle, puisque j'avais plus... mon atelier, mon four, etc. Donc je suis passée à un travail sur des petites maquettes. Et donc ici, effectivement, ça fait partie de ça. Ça fait partie de la série des maquettes. Et donc là, c'est une des toutes petites, une des plus petites que j'ai faites, où il y a juste un genre de canapé, de divan, d'ottomane, ça s'appelle, je crois, des chaussons, et puis un livre ouvert au milieu.
Donc un espace intime qu'on peut regarder de haut. Comme si on était un oiseau, enfin on regarde, c'est étonnant ce point de vue.
Oui, bah c'est toujours un peu ce truc de rapport entre intérieur-extérieur, de porosité entre une scène très intime, en même temps le dispositif de la vitrine, qui est une chose muséale, invite le regard, et presque, c'est presque un peu déplacé en fait, d'appeler tellement à regarder une chose qui appartient pas du tout à ce truc d'être vu, quoi. Et c'était aussi un moment où je m'intéressais aux miniatures qui étaient fabriquées par des nonnes au moment où elles entraient dans les couvents. C'était une pratique qui... C'est n'a été quasiment qu'en France, au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, au moment où elles entraient dans le couvent, qu'elles quittaient définitivement leur famille, qu'il n'y avait évidemment pas le téléphone à l'époque, et encore moins les vidéos et Snapchat et tout ça. Le seul moyen qu'elles avaient de traduire leur expérience quotidienne à leur famille, c'était de faire une petite maquette miniature de leur chambre, et dans laquelle on trouvait leur lit, leur livre de prière,
leurs voilà, quelques affaires, une chaise, un vêtement, une photo de la Vierge. Et ça m'a bouleversée de voir ça. Et donc cette pratique de la miniature, qui était vraiment le truc que les femmes... Encore une fois, c'était aussi une pratique... Les hommes n'ont pas eu cette pratique, les hommes qui prenaient les ordres. Ça, c'est intéressant quand même. Ouais. Donc c'est aussi que la pratique de la miniature appartient à ce qu'on a placé historiquement du côté du féminin et qui a toujours été dévalorisé.
Est-ce que c'est un titre ?
Tout est sans titre. Mmh. Le seul titre que j'ai donné, c'est celui de l'exposition. Ça, en revanche, ça me plaît beaucoup de donner un titre à une exposition. En revanche, donner un titre aux pièces, au contraire, c'est vraiment problématique, ça embrouille les messages. S'il y a déjà un titre de l'expo, on va pas multiplier les titres. Pour moi, c'est plus... Je conçois un peu... Je crois, là, c'est un peu un truc que je suis en train de préciser pour moi. Mais j'ai l'impression que j'aime bien envisager une expo, en tout cas celle-là, comme une sorte de poème. Du coup, donner un titre à ce poème. Et à l'intérieur, il y a tout un tas de strophes, tout un tas de vers. Et donc là, en l'occurrence, le titre de l'ensemble, ce serait celui que tu as lu quand on est arrivé, et gentille aussi. Mais ensuite, chaque œuvre est libre d'être ce qu'elle est.
Pourquoi ce titre ?
C'est une phrase que je disais quand j'étais enfant. À ma mère, qui avait pris l'habitude de dédicacer les livres qu'elle écrivait à partir du moment où je suis née. Elle a commencé à mettre une dédicace dans ses livres pour moi, où elle disait « à ma belle Léonore ». Et apparemment, je lui disais « mais et gentille aussi ». Parce que je pense que j'avais cette angoisse, je pense, d'être bien sûre que cette valeur de la gentillesse, elles la reçoivent. Et c'était, je crois, l'objet de beaucoup de mes préoccupations. Et la beauté ne voyait pas trop en quoi ça l'intéressait que je sois belle ou pas, c'était pas trop le truc. En revanche, je pense que c'était important pour moi qu'elle reçoive une certaine gentillesse. Et donc là, j'avais envie de reprendre cette phrase qui noue pas mal de trucs aussi sur la position féminine issue de l'enfance ou du rapport aux parents, enfin toutes ces choses-là, quoi.
Merci beaucoup, Léonore. À très bientôt.
Merci, Nadia.
Grammaire fantôme.
On se retrouve la semaine prochaine avec notre nouvel invité.
Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Une émission par Nadia Lichtig.